RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le meilleur des grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
C'est une proposition de Jean-François Copé. Travailler une demi-journée en plus par semaine, totalement exonéré de charges. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas?
Alors, en fait, depuis l'instauration des 35 heures, et on s'est aperçu que c'était pas forcément une très bonne idée. Alors, aujourd'hui, tout le monde dit, il faut travailler plus en France. Alors, depuis l'instauration des 35 heures, on tourne autour du pot. C'est-à-dire, on invente des systèmes pour essayer de, non pas de dire officiellement, on arrête avec les 35 heures, mais quand même, il faudrait que les Français travaillent plus. Alors, Nicolas Sarkozy avait inventé les heures sup défiscalisées. Et là, Jean-François Copé nous dit, il faudrait travailler une demi-journée de plus. Et pour que ça soit quand même un peu attractif, il dit, ça serait totalement exonéré de charges sociales. Donc, il y aurait peu de différence entre le brut et le net sur cette demi-journée. Mais alors, si on voit concrètement les choses, la demi-journée, bon, déjà, les Français, s'ils travaillent du lundi au vendredi, quand est-ce qu'on fait cette demi-journée en plus? Donc, ce que je comprends bien, c'est une heure de plus chaque jour. Donc, ça fait 4 heures. Une demi-journée, c'est 4 heures de plus. Donc, 4 heures, ça fait quoi? Ça fait 39 heures par semaine. Donc, en fait, Jean-François Copé, au lieu de nous dire, bah, arrêtons avec les 35 heures, venons 39, il invente une espèce de truc de demi-journée, bon, difficilement compréhensible, parce que les gens doivent se dire, mais où est-ce que j'accale ma demi-journée?
Joël Dagosséry.
Non, mais là, il touche à deux trucs. Donc, le temps de travail, si on veut travailler plus, produire plus, ok, bah alors passons à 39, comme tu as dit. On arrête avec ce 35 heures où tu as des dérogations partout, tu ne sais plus quoi en faire. Donc, allons à 39.
Personne.
Et puis, il aborde le sujet, il accole à ça une exonération de charges. Donc, il reconnaît là qu'on a un problème sur les charges. Donc, c'est marrant parce qu'en fait, ils reconnaissent tous le problème, oui, comme ça. Et puis, par contre, ils y touchent du bout des doigts. Mmh. Alors, attention, oui, juste 4 heures, on va saupoudrer comme ça au long de la semaine. Et puis, exonération de charges uniquement sur ces 4 heures-là. Mais attends, mais tu les fais sauter, les exonérations. C'est sur toutes les heures. Hop, ça saute. Ou alors, en tout cas, peut-être pas en totalité,
bah,
mais tu baisses drastiquement. Il faut arrêter d'avoir peur et de toucher du bout des doigts.
Donc, monsieur Copé, un peu plus de courage.
Oui, un peu plus de courage. Et c'est pour ça que je te dis que ces gens-là ne sont pas prêts à gouverner et en tout cas à sortir de la France de son marasme. Parce qu'en fait, ils veulent faire des choses du bout des doigts. Il ne faut pas toucher à grand-chose.
La trouille.
Il faut faire semblant.
Tu sais pourquoi?
Semblant.
C'est la trouille politique.
Tu sais pourquoi, Joël?
Mais non, je ne sais pas
parce
pourquoi.
Parce que quand tu touches à ces choses-là,
à
ces choses-là,
d'accord,
le temps de travail, les charges sociales et donc la redistribution, c'est ce qui se passe. Il y a tous les syndicats dans la rue. La France, elle est bloquée, quoi. Hein. On sait comment ça se passe. Et à un moment donné, il y a personne qui a du courage aujourd'hui, parce que si tu dis, on va remettre la France au boulot, en gros, ce que tu dis, hein, on va remettre la France au boulot 39 heures, parce que déjà des gens à 35, il y en a plus beaucoup. Il y a ceux qui sont à 32, et puis ceux qui sont à 60. Mais des à 35, j'en connais pas beaucoup. Et derrière ça, qui dit baisser les charges sociales, dit toucher à la redistribution, et ben si tu fais ces deux propositions là, t'es sûr de jamais être élu. Parce que on est dans un pays où les gens ils pensent qu'à une chose, c'est qu'arrive le vendredi midi pour partir en week-end. Voilà, il y a plus que ça qui compte.
Donc,
à un moment donné, je pense que si il a l'idée au fond de s'attaquer à ce problème-là, il est obligé d'y aller avec des pincettes de sel parce que tu vas foutre le pays en révolution.
D'accord avec toi, mais je veux dire avant de s'attarder sur la redistribution, ce serait bien qu'il y ait un peu de distribution.
Charles,
déjà.
Je suis d'accord avec toi. Cette proposition, Charles, de Jean-François Copé, qui semble se rapprocher de plus en plus d'Édouard Philippe. Hein.
Ouais. Non, mais la France est folle. C'est-à-dire que dès qu'il est question de travail, oulala, alors on va essayer de travailler peut-être une demi-journée en plus, qu'est-ce que vous en pensez? Et alors on va le faire sans charge, on n'arrive plus, ça devient presque interdit de travailler en France, c'est ça qui devient dingue.
Ça l'est,
ça l'est,
regarde,
effectivement,
le
parfois.
Le 1er mai pour un boulanger, c'est compliqué.
On sait qu'on est un pays qui ne travaille pas assez, c'est bon, on l'a compris, tous les économistes nous le disent, il y a vraiment plus que Thomas Piketty et Arlette Laguiller qui sont pas d'accord, sinon
Gabriel
tout le monde est d'accord,
Zucman.
Globalement. Hein, pardon.
Et Gabriel Zucman.
Et Gabriel Zucman. Un idéologue... grave, mais sinon bon, tout le monde a compris le problème en même temps bon bah c'est vraiment quasiment interdit quoi, c'est-à-dire que si vous travaillez alors si vous êtes salarié oulala, faut qu'on vérifie que vous êtes vraiment dans le bon horaire, est-ce que vous n'avez pas dépassé de 5 minutes à gare à l'employeur qui fait dépasser de 5 minutes à son employé parce qu'il pourra produire le mail envoyé à 18h02 devant le conseil de prud'homme, et là bam, l'entreprise elle se prend 10 mois de salaire, de 150 000 euros pour discrimination, etc., etc. Et quand vous êtes un indépendant, bah, ou un chef d'entreprise, ou que sais-je, si vous travaillez un peu plus, un peu trop, bah là, pareil, bam, c'est l'État qui vient tout vous prendre. Ah, là, vous avez fait X euros, donc là, c'est 70% hein, maintenant.
Et regardez, j'aime bien là, le rire du fisc.
Regardez ce week-end, je lisais le Monde, hein, naturellement, comme chaque week-end. Et qu'est-ce, oulala. Les entreprises, malgré la crise, font des super profits. Ouh là 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 là. Donc là, maintenant, ça y est, faire des profits, c'est devenu là encore.
C'est un acte de délinquance.
Là, c'est devenu un acte de délinquance. Vite, 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 la taxe, la saisie, l'audit. Est-ce que vous n'êtes pas un profiteur de guerre? Vous avez bénéficié de la hausse du cours du pétrole. Ouh là 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 là. Donc c'est franchement, on est dans une névrose collective sur la question du travail qui est incroyable. Je pense que, par exemple, pour les Américains, ils doivent nous voir, mais là, je sais pas si ils disclosent en ce moment des trucs sur les ovnis. Je pense qu'on est des martiens pour les Américains. Honnêtement, on est dingue. Il faut qu'on arrête avec ça. Donc, la proposition du jeune Copé, elle est sympa, etc. Mais c'est très en dessous de ce qu'il faut faire. Moi, je pense qu'on doit faire une révolution culturelle sur la question du travail et y aller très, très franchement sur les allègements de charges, de taxes, de tout ça. Faut vraiment donner de l'air. C'est pas une petite demi-journée qui changera.
Bah, les grandes gueules ont lancé la discussion. Vous pouvez nous rejoindre maintenant, parce qu'il y a encore d'autres arguments à développer. On a Samir. Samir, bonjour.
Oui, bonjour tout le monde, ça va ?
Bienvenue. Qu'est-ce que vous en dites, Samir ?
Bah moi, ce que je disais hors antenne, je sais plus comment ça s'appelle, à Quentin. Oui. En fait, moi, je retourne dans la fonction publique. J'étais BTC, donc je repars, parce qu'à la base, j'étais fonctionnaire, donc je réintègre la fonction publique.
Ah oui.
Et moi, je suis déjà annualisé à 39 heures. Ma femme, elle est à la Sécurité sociale, elle est annualisée à 39
heures. Non, c'était vu à Rennes, Samir.
Exactement.
Vous étiez VTC, je sais, on vous a eu souvent au téléphone, et vous lâchiez votre boulot pour repartir dans la fonction publique.
Ouais, j'en ai marre. L'État, il nous prend trop, là. L'État nous prend la gorge.
L'éternel problème.
Et donc, je repars là, donc je suis détaché au ministère des Armées. Et moi, en fait, en soi, ça me dérange pas. Je fais mes 39 heures annualisées, j'ai quelques RTT. Mais en gros, je suis payé 1007. Ma femme, elle est payée 1450 euros en 39 heures à la Sécurité sociale. Elle le fait, elle, parce que c'est plus pour les enfants. C'est des bons horaires pour gérer les gamins et tout. Mais en gros, une demi-journée, ça va nous rapporter quoi? Augmenter un peu de salaire, je sais pas. Des fois, en fait, quand j'écoute un peu les politiques, j'ai envie de leur dire, mais non, on s'en fout de travailler plus. C'est pas le travail qui nous fait peur. Hein. On a toujours travaillé.
Ce qui est dingue, c'est votre changement de vie. Parce que je me souviens, on avait discuté à la FNAC de Rennes quand vous étiez venu nous voir. On avait discuté de votre travail justement de VTC. Et là, vous dites, j'arrête parce qu'on nous prend trop, quoi, en fait.
Malheureusement, trop concurrentiel. Ça veut dire que c'est vraiment ce métier-là. En fait, on dirait, il n'y a pas de réglementation. C'est tout le monde vient faire ce métier. Ils ont vu de la lumière. Pareil, à la base, j'étais conducteur de car aussi en extra. On coûte trop cher pour les autocaristes, donc en fait ils vont toujours chercher au rabais, chercher au moins cher, mais à un moment donné
en vous écoutant, Samir, un vrai problème en France, c'est-à-dire qu'on décourage le travail, à la fois on décourage le travail et on paupérise les travailleurs, c'est-à-dire qu'on a une France qui va travailler entre 1500 et 2000 et 2002 et avec peu de perspectives d'évolution de salaire, accablé d'impôts, avec des charges qui augmentent, des charges fixes qui augmentent, en plus en ce moment avec le carburant, les prévisions en plus ne sont pas bonnes, hein, vous avez vu les prévisions de croissance, donc le budget de Le Cornu, il est déjà mort. C'est 5% déficit, ils sont déjà morts. Enfin bref, il n'y a pas beaucoup de perspectives.
Alors, hein.
Il va falloir que les candidats fassent preuve d'imagination.
Si ceux qui se font trop taxer deviennent tous fonctionnaires, il va y avoir un problème à la fin.
Hein. Et tu voulais réagir à cette reconversion de Samir.
Ouais, je suis vraiment émue par la reconversion de Samir. Parce que déjà, on voit que Samir, il cherche vraiment à travailler, quoi. Il est passé VTC, il a fait chauffeur de car, c'est ça, Samir ?
Chauffeur de car.
Et maintenant, fonctionnaire. Moi, à titre personnel, en tant qu'indépendante, je vous raconte pas le nombre de fois où je me suis dit que j'allais repartir salariée. J'étais vraiment à deux doigts. Le nombre de fois où je me suis dit, mais en fait, ça sert à quoi? C'est pas une vie. Il faut repart salarié. Et ça fait 5 ans que je tiens et j'espère tenir encore. Mais je suis émue parce que Samir, il a décidé, lui, de vivre de lui-même, en gros. et l'État le fait tellement chier qu'il repart travailler pour l'État. Donc, redépendre entre guillemets du service public, de l'argent public. Donc,
sécurité.
Tu vois même que si tu voulais te sortir de ça, l'État te tient tellement fort qu'il te ramène vers lui. Donc, franchement, déjà force à vous, Samir, franchement. Et je sais même pas comment l'État peut supporter ça, parce que il aurait pu créer de la richesse tranquille sans dépendre de l'argent public, quoi.
Merci Samir, et puis vous nous tiendrez au courant au fur et à mesure de vos appels avec les GG, avec les grandes gueules de l'Ille-et-Vilaine. On va revenir sur la Marne avec quelqu'un qu'on connaît bien aussi, Florian. Bonjour Florian.
Bonjour GG, vous allez bien?
Ouais, viticulteur Florian, qu'est-ce que vous en dites vous alors de cette proposition de Jean-François Copé?
Moi, j'étais pour le retour à 40 heures, parce que on a un SMIC qui a un peu plus de 11 euros de l'heure, et 40 heures, ça ferait 5 heures par semaine, ça fait 20 heures dans le mois, c'est 220 euros pour un SMICard de revenus en plus, et dans ce cas-là, net. Donc, je pense que c'est une bonne idée. Et puis, alors, sur le terrain, ça va pas forcément changer les choses, parce qu'on peut déjà se sortir des 35 heures avec les heures sup, mais je pense que c'est important d'entrer dans les têtes qu'il faut travailler plus, et qu'une semaine de travail c'est 40 heures. C'est libre à vous après d'assumer de prendre un temps partiel et de gagner un petit peu moins, ou de gagner que vous gagnez aujourd'hui.
Florian, il y a quelque chose qui cloche dans la proposition de Copé. Il dit que la contrepartie de travailler plus, c'est d'exonérer les charges sociales. Mais les gens qui sont smicards, des charges sociales, il n'y en a plus déjà. Au SMIC, il n'y a plus de charges sociales. Donc à un moment donné, aujourd'hui, je vois pas en quoi il y a une contrepartie à cette proposition. Faut juste que sur l'ensemble du travail, globalement, on rapproche le brut et le net, et puis après, les gens, ils vont aller travailler plus,
moins de charges, ils gagnent plus. La contrepartie, c'est de payer moins de charges sur le temps de travail supplémentaire. Donc en absolu... Ça reviendra au même, on va dire, pour l'employeur, mis à part qu'il devra payer le temps de travail en plus. Mais par contre, pour l'État en absolu, ça sera le même revenu, enfin la même recette.
Rien à l'État. Je suis d'accord avec Florian. Où est-ce que vous êtes viticulteur dans la Marne?
Champagne.
Champagne. Champagne. Bon bah ça va en Champagne. Ça, vous pouvez les payer les 40 heures.
on a des avantages.
On pourrait admettre pour une fois qu'on a fait tout simplement une connerie, que ces 35 heures, par quelques bouts qu'on les prenne, en fait, c'était une connerie de Strauss-Kahn, Martine Aubry et Lionel Jospin, pour dire les choses. Et donc, on revient sur cette connerie. Ouais. Voilà, on s'est trompé, ça arrive de se tromper. On revient dessus, on dit, en fait, ça marche pas, ça désorganise tout.
Non, mais attends, Madame Binet, t'attends au tournant, là.
Mais Madame Binet ne représente personne. Madame Binet
des gens dans la rue.
Se représente à elle-même.
Elle peut bloquer. Tu vas voir, celui qui va dire ça. S'il y en a un qui est lui
et notre ami Bruno Poncé, c'est foutu.
Je pense que si on n'arrive certes pas à débloquer le détroit d'Hormuz, mais je pense quand même que les cortèges de Madame Binet, avec 3 cégétistes fatigués, et 3 bobos et 3 profs au chômage, on arrivera à les débloquer.
Mais regarde,
quand même.
Regarde, la seule.
Je veux bien y aller moi-même. Débloquer les cortèges de Madame Binet. Je suis sûr que j'aurai du monde
d'accord
avec moi.
D'accord, toi, mais la seule réforme qu'Emmanuel Macron aura vraiment faite pendant 10 ans, c'est la réforme des retraites qui n'existe plus. Elle a été suspendue. D'ailleurs, vous remarquez que Édouard Philippe n'en parle plus.
De la gauche, des syndicats.
C'est pas parce que les forces d'inertie parviennent souvent à nous replomber.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est que quand tu as donné quelque chose, c'est difficile de le reprendre. Les 35 heures est vécu aujourd'hui comme un acquis social, comme la retraite. Pourquoi on a tellement du mal à bouger la retraite?
Je remercie Florian d'avoir été avec nous. Florian,
haute lutte, c'est acquis de haute lutte syndicale.
À bientôt pour de nouvelles discussions. Désolé, vous vous êtes déconnecté. On voulait vous saluer. On a Richard dans l'Hérault qui est maître nageur auto-entrepreneur, un fidèle des GG aussi. Bonjour Richard.
Salut les GG, comment ça va?
Ça va Richard, qu'est-ce que vous en dites de la proposition?
J'en ai marre, j'en ai vraiment marre de cet état gère rien. C'est du oui, peut-être. Et si on faisait? Et non, je sais pas. Attends, on va peut-être mettre un peu ça. On va enlever ça. Non, c'est une recette de cuisine ou quoi, la France? Putain, c'est pas dur. Mettez les gens au boulot. Baissez les TVA. Baissez la pression sur les entreprises. Et les gars, on va bosser. Moi, je veux embaucher. Hein. Il y a aucun souci. Mais quand j'embauche, que je vois ce que ça me coûte et ce que je me sors à la fin du mois, c'est moi qui me sors les doigts du cul. Hein. L'État, lui, fait que encaisser. Hein. Donc, à un moment, au lieu de parler, de se dire oui, mais peut-être qu'il faudrait à croire que. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, les gars? Les gens, ils ont envie de mettre les mains dans le cambouis.
Non. Des auto-entrepreneurs, je suis pas d'accord avec vous, Richard.
Moi, je bosse qu'avec des autos. Hein. Je bosse que avec des auto-entreprises.
Ah bah, ceux-là,
entreprises.
Oui,
eux, ils ont. Je vous dis pas les fonctionnaires. Je vous dis pas il y a une certaine partie de la population qui est bien dans ce qu'elle fait. Mais moi, j'ai une génération là qui a envie de bosser et qui me disent nous, si on peut bosser 40 heures par semaine, on y va. Par contre, ils ont pas envie d'enfiler 30% à l'URSSAF pour avoir des retraites de merde derrière. Moi, je fais des chiffres d'affaires, moi tout seul, à 40 000 l'année, pour gagner, être même pas au minimum vieillesse dans 25 ans, quoi. Donc je me dis, à quoi ça sert que je donne tout cet argent à l'État? Putain, il y a juste à ce qu'à un moment, on baisse la pression, et vous le dites à chaque jour sur votre antenne, qu'ils écoutent les GG un peu nos politiques, quoi. Copé, en plus, ça fait 1000 ans qu'il est là. Mais enfin, mettez-nous quelqu'un qui a envie de faire bouger tout ça, quoi.
Non mais j'avoue là, c'est vrai, Copé, ça fait 1000 ans qu'il est là. Au bout de 1000 ans, si ta proposition c'est 4 heures de plus à saupoudrer avec une exonération de charges, enfin je sais pas ce que tu fais encore là. Il faut laisser. C'est vrai que là il faut penser à laisser la place. Mais tu vois, il y a deux catégories de personnes là. C'est Richard. Richard, il disait, on n'a pas envie de bosser plus pour rien gagner à la fin. Donc on s'arrête avant de dépasser un certain seuil. Et t'as des gens.
Ça c'est les indépendants qui réfléchissent comme ça.
Voilà. Mais ouais, mais moi je suis d'une autre catégorie.
Mais le salarié doit
Moi je suis d'une autre catégorie, c'est-à-dire que je vais jamais arrêter de bosser plus, je vais jamais chercher à gagner moins, sauf que ces gens-là, à un moment, ils vont se retrouver ailleurs, ils vont se dire écoute, comme moi, dans ma nature, je vais pas optimiser mon temps et je veux vraiment gagner plus et je veux vraiment bosser plus, tu vas te dire, voilà quel pays m'offre ces conditions, c'est tout, c'est ce que tu vas faire. Parce que moi, il est hors de question que j'optimise et que je me dise, j'arrête de gagner plus juste parce que l'État ne me garantit pas de la retraite.
Richard,
tu vois.
Je vous remercie d'avoir été avec nous, Richard, et c'est vous qui aurez conclu notre discussion. Bonne journée, Richard, à bientôt.
Bonne journée à tous, merci.
À bientôt dans les GG. Alors, la question qui a été posée sur les réseaux sociaux, c'est prêt à travailler une demi-heure en plus par semaine? Oui ou non? Vous mettez non à 70%.
Alors,
oui,
mais non. Voilà, tu vois, si Richard est exonéré de charges,
si Richard est élu, il trouvera pas ses salariés. Moi, je te dis.
Est-ce que c'est une bonne idée? C'est ça la question.
Oui, ça.
Les gens disent que c'est une mauvaise idée, mais ça veut pas dire qu'ils veulent pas bosser plus. C'est qu'ils soutiennent pas cette idée-là.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le meilleur des grandes gueules.
Moi, je n'ai pas mangé de
la tête. C'est une étude intéressante sur le sexe et les 18-24, 18-25 ans. En fait, ils boudent le sexe. Ça, c'est incroyable.
Oui, c'est vraiment surprenant. Parce que, alors, effectivement, la question, est-ce que le sexe est indispensable pour vous? Oui, seulement 9% de oui parmi les 15-24 ans. 14%, c'était en 1990, donc seulement 9%. Et alors, la question, est-ce que le sexe est important? Donc, le critère est différent. Le sexe est-il important pour vous? 38% des 15-24 ans disent oui, seulement. En 1990, ils étaient 62%. Que se passe-t-il? Les jeunes se détournent du sexe. Est-ce la faute des algorithmes, des smartphones, de Netflix? Est-ce la faute aussi de l'environnement général? Il y a beaucoup de jeunes qu'on interroge qui disent non, mais on peut même envisager d'être en couple, mais un couple sans sexe.
Non, mais voilà.
Ou c'est la faute des adultes qui ne s'occupent plus des jeunes.
On se demande pourquoi les jeunes sont des
changements. Les adultes avaient une responsabilité.
Laura.
Maintenant, on leur interdit.
Voilà. C'est une vanne. Hein. Team, j'aime de l'humour.
Hashtag humour.
Hashtag humour.
Oui, il faut mieux préciser quand même.
Laura.
Non, mais après,
à ton avis, c'est dû à quoi?
Mais je sais pas, mais après, on se demande pourquoi le monde part en cacahuète. Évidemment, ils sont aigris.
En M&M's.
je sais pas, parce que moi, je fais partie aussi de la génération. Alors, j'avais pas le téléphone greffé à la main. Enfin, si, mais moi, j'avais le droit qu'à 100 SMS, une demi-heure d'appel. Sinon, après, c'est t'appel, j'ai plus d'unité. Mais je suis au début de MSN, des Skyblock, des machins, donc où j'avais aussi l'ordinateur. Mais ça nous empêchait pas de nous voir et tout. Et ça me fait penser à un sujet que vous avez traité aussi, que les gamins, ils allaient plus en boîte. Mmh. Et en fait, c'est plus... maintenant, on est amis à travers le, ouais. À travers les téléphones, etc. Avant, c'était, bah, nos parents nous avaient dit, bah, tu rentres à 18h30, on se dépêchait de manger et on se retrouvait sur MSN pour continuer de se parler en même temps. Maintenant, l'écran est plus présent que le réel contact humain.
Et donc, du coup, ça annule un peu l'envie de rencontrer l'autre.
Bah, t'as ça, t'as le fait que le téléphone, maintenant, il te suit même jusque dans ta chambre à coucher. Donc, en fait, t'as l'iPad, le téléphone, la télé. Libido.
C'est uniquement à cause du smartphone.
Joël.
C'est le gros changement qu'il y a, je trouve.
Le sexe, bah, notamment pour les femmes, je ne sais pas du côté des hommes, parce que comme vous êtes en rut, on ne sait pas. Je rigole.
On est en rut.
Non, je rigole, vraiment, c'est de l'humour. Hashtag humour.
Tu veux dire qu'on gratte du sabot tout le temps, en fait.
Exactement, mais je veux dire, pour les femmes.
Jeunes, on ne parle pas des plus de 60 ans.
Oui, oui.
Tout va bien, merci.
Des balles perdues, c'est génial.
Non, mais c'est lié à la connexion d'abord humaine et affective. Et là, Laura, moi, je la rejoins. Genre, la connexion humaine et affective, tu l'as maintenant dans ton smartphone. Mmh. T'as l'impression d'avoir plein d'amis. Il y a toujours des trucs à regarder. Dans ton cerveau aussi, il est alimenté. Je veux dire, il est surexcité. Je me demande d'ailleurs si c'est pas les mêmes zones. Faudrait voir avec les neurologues. C'est pas les mêmes zones qui s'allument dans le cerveau pour le sexe que pour lorsque tu vois une vidéo, par exemple, je sais pas, sur TikTok. Donc peut-être que ton cerveau il reçoit ce même type d'excitation, etc., et que t'as l'impression de moins en avoir besoin. Pour les femmes, moi j'ai regardé un peu ce qui se passait notamment chez nous les femmes, et t'as des femmes en fait qui maintenant, et d'ailleurs je trouve ça assez heureux, qui acceptent de moins en moins de faire du sexe sous pression. Quand je dis sous pression, c'est pas de viol ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour faire plaisir,
pour faire plaisir
à son mari, compagnon. Donc l'idée de devoir entre guillemets conjugal. Et donc étant donné que les mentalités ont évolué sur ce point-là, et ben effectivement, peut-être que tu as une baisse de ce côté-là parce qu'elles se disent, non, là, j'ai pas envie. Voilà.
Alors, déjà, ça explique pourquoi la natalité baisse aussi, c'est sûr. Là, on est mal barré.
C'est pas pratique.
Et ce qu'explique l'IFOP, c'est qu'en fait, il y a une dissociation croissante entre conjugalité et sexualité. C'est-à-dire, les Français n'associent plus de la même manière vie de couple et vie sexuelle. Il y a des femmes, effectivement, qui estiment qu'elles ont moins envie de faire l'amour, mais ça n'empêche pas d'être en couple. Et ça, c'est peut-être nouveau dans la nouvelle génération. Alors, avant, il y avait ce qu'on appelait le devoir conjugal.
Ouais, non, mais tu fais quand même, t'as moins de relations avec ton partenaire.
Regarde l'avènement aussi du gadget.
La première année, c'est
du fameux, c'est quoi son nom, qui a cartonné,
un vibromasseur?
Ouais, le womanizer.
Ah oui, womanizer.
C'est ça, l'avènement du womanizer.
Ah oui.
Qui a été un carton.
Donc, on n'a plus besoin de mecs, c'est ça?
Ben, si, oui, mais en même temps.
Attends, Laura, tu m'as l'air de connaître.
Mais c'est pas ça, c'est qu'un jouet vibrant, je vais rien apprendre aux femmes de ce pays, que la plupart d'entre nous ne sommes pas vaginales mais plutôt clitoridiennes, mais il n'y a rien de mieux au monde qu'un jouet qui vibre avec son partenaire.
Ah oui, les deux.
Ah oui, donc il y a le besoin du partenaire
Il y a beaucoup de femmes qui vont se contenter du jouet.
Non. Je ne voudrais pas dire du côté des hommes, mais quand même, on a quand même une grosse pelletée d'hommes déconstruits. Ça donne pas envie. Tu m'excuseras.
Je préfère que ça soit toi qui le dise.
Excuse-moi. Non, parce que t'as tout un tas de nanas qui se mettent avec des hommes déconstruits, qui comprennent tout de la femme, qui sont à l'écoute de tout de la femme, et qui sont même plus féministes que les féministes, etc. Alors le partage des tâches, c'est important. Et en fait, ils sont tellement déconstruits. Alors les femmes se disent, c'est génial. Moi, j'ai trouvé mon homme déconstruit, il me comprend. Puis à la fin, il ne me donne plus envie. Mais il n'est pas sexy.
Il est trop féminin.
À la fin, ça ne donne pas envie, un homme déconstruit, je suis désolée. Donc, il faudrait quand même.
Heureusement, c'est que c'est toi qui le dis, parce qu'aucun des hommes présents sur ce plateau n'aurait pu dire ça sans se prendre.
Ah, non, parce que si on dit ça, on va être traité de macho.
Bien sûr.
Masculiniste. Je ne suis pas d'accord.
Masculiniste, c'est le nouveau mot.
Charles.
Non, moi, je trouve ça en tout cas merveilleux, cette société où les gens vont finalement peu à peu s'enfermer sur une espèce de bulle dans laquelle ils seront définitivement seuls. Je crois que c'est l'avenir qui se dessine. Je pense effectivement qu'il y a plusieurs facteurs. À mon avis, le facteur des écrans est quand même considérable parce que les gens sont...
La série Netflix du mal.
Extrêmement drogués à leurs appareils électroniques et ont de plus en plus de mal à voir ce qui se passe, ne serait-ce qu'autour d'eux. Il suffit de prendre un transport en commun, par exemple, pour voir qu'il y a des gens, ils peuvent faire tout le trajet sans voir, sans croiser le regard, ou même sans regarder un autre passager. Donc, je pense que ça joue un peu.
Je crois aussi à ce qu'a dit Joël, même si je pense effectivement que c'est mieux si c'est une femme qui le dit. Je pense qu'il y a, non, mais dans les rapports sexuels, il y a par exemple souvent des rapports de domination. Et je pense qu'on est arrivé à un tel point, un tel fanatisme égalitaire aujourd'hui, que je pense que les jeunes n'arrivent plus à rentrer dans ce type de rapport, par exemple. Parce que, oulala, attention, il faut tellement se respecter, tellement faire attention à l'autre, et surtout ne pas l'offenser, etc., etc. Bon, bah, forcément, dans ces cas-là, voilà. Je regardais il n'y a pas très longtemps avec une jeune personne de ma famille, très féministe, etc. Un vieux film, justement, qui s'appelle La Baule les Pins. Très mauvais film d'ailleurs, avec Nathalie Baye et Vincent Lindon. Et dedans, Vincent Lindon dit à Nathalie Baye, tu es à moi, etc. Il est très ardent, il est très beau d'ailleurs à l'époque, elle aussi elle est très belle. Bon. Eh bien, cette personne de ma famille très féministe n'aimait pas du tout entendre Vincent Lindon dire tu es à moi. Elle disait, ah ben voilà, voilà un homme toxique, qu'est-ce que c'est que cette histoire, tu es à moi, tu es à moi. Bah donc oui, forcément... Un rapport sexuel complètement égalitaire, c'est pas toujours le truc le plus folichon qui soit.
Te toucher,
donc voilà. Non mais je pense effectivement que le mouvement MeToo, etc., tout ce qui s'est passé depuis 10 ans, 15 ans, effectivement aboutit peut-être quand même un petit peu à tuer le sexe et à tuer le désir chez les jeunes. Il faut quand même le dire puisqu'on parle librement. Mais ça, ceux qui mettaient en garde contre ça il y a 5-10 ans étaient des nazis.
Surtout si c'était les hommes qui en parlaient.
Surtout
si
Nicolas, moi j'aime bien quand je suis sur des femmes, c'est parfait. Nicolas veut partager son expérience parce que Nicolas, il a deux ados, je crois, de 17 ans. C'est ça, bonjour Nicolas.
Bonjour à tous, hyper content de vous avoir depuis le temps que je vous écoute. Donc oui, j'ai deux beaux-fils de 17 et 15 ans et qui effectivement, bon, au-delà d'être... hyper focus sur les réseaux sociaux, Snapchat, Fortnite et autres, bah c'est vrai qu'ils m'ont déjà dit qu'ils avaient déjà eu des retours de copains de lycée, que bah, dès qu'ils approchaient trop une fille, bah, est-ce que je vais pas être traité d'harceleur parce qu'on dragouillait ? Moi, j'ai grandi dans les années 90. Alors, parfois, effectivement, on peut être un peu lourd et je comprends que ça peut saouler la gente féminine. Mais aujourd'hui, voilà, il y a tellement la trouille et les communications qu'on voit sur Snapchat et autres, de j'approche un peu une fille, je suis un peu un contact sympa, bah tout de suite, on peut avoir la suspicion d'être traité de harceleur, alors que...
Non, il faut juste respecter
le monde. Est-ce que disait Charles.
Mais est-ce que vous sentez qu'ils sont moins intéressés par le sexe que vous, à leur époque, ou pas?
Ah bah, 100%. Hein.
À cause de quoi? Hormis le côté drague, alors, parce que entre 17 et 15 ans, la libido, c'est un peu en fusion, quoi. C'est un peu l'Etna dans le bide.
Vous-même qui avez beaucoup pécho, alors, Nicolas.
Pas dans le bide, mais oui, c'était un peu l'Etna, je confirme. Oui. Mais non, c'était...
On vous appelait le volcan du camping, non?
Non, simplement, c'est que nous, à l'époque, enfin, quand j'avais 14 jusqu'à 18 ans, on était tout le temps sortis entre potes, on jouait dehors, on était à la campagne, enfin voilà, on était beaucoup
vous
plus
insouciants,
mais on était en groupe, en communauté. Aujourd'hui, eux, ils font des visios sur leur téléphone. Et moi, je leur dis, mais pourquoi vous ne réunissez pas entre potes ah bah non, moi, je suis bien chez moi et lui, il est bien chez lui. Ah bah, super, quoi.
Non, mais regarde, il y a plein de blagues maintenant où on dit, à l'époque, on disait, tu rentres. Maintenant, les parents, ils disent, tu sors.
Alors, Nicolas, reste avec nous parce qu'on a Wesley qui va intervenir. Il est dans le Puy-de-Dôme. Bonjour, Wesley.
Eh bien, bonjour à tous.
Salut, conseiller bancaire, Wesley. Alors, les jeunes femmes ou les jeunes moins intéressés par le sexe, comment vous l'expliquez, vous, Wesley?
Eh ben déjà, je pense qu'il y a la pornographie. La pornographie
qui est plus accessible,
c'est vrai aussi.
C'est plus accessible, je suis désolé. Moi, je suis de l'âge de Juliette Briand. J'ai quand même grandi sur les réseaux
et Estelle, ouais.
Et aujourd'hui, franchement, je vous le dis, mais un gamin, il a 12 ans, il a déjà vu du porno en direct. En fait, il y a toujours du porno H24, on en voit partout, que ce soit les séries Netflix, ou absolument qu'il y ait une scène ou un moment où il faut que ça s'embrasse et que ça se touche et machin. Donc en fait, les jeunes en voient tout le temps. Donc je pense que ça a aussi créé à côté des années, je ne sais plus le pourcentage que vous avez sorti tout à l'heure, qu'il y a quelques temps, les anciens, ils avaient 15-25 ans, je crois, vous aviez dit.
Oui, c'est 15-25 ans, ouais. Attendez, je reprends mes chiffres. Donc on est passé de 38%. Aujourd'hui, c'est 38% des 15-24 ans qui estiment que le sexe est important dans leur vie. C'était 62% en 90. Donc là, il y a une minorité de jeunes qui estiment que c'est encore important.
Mais qu'est-ce qui a remplacé le sexe dans la vie, alors? Justement, c'est ça.
Le porno virtuel et le smartphone et les séries Netflix et la peur peut-être aujourd'hui d'aborder
une fille. Je crois pas trop. Non, pour moi, c'est vraiment le parce que que ce soit la pression, voilà, de pas être aussi performant qu'un acteur de porno, etc. Le côté mascu, pas mascu et tout. Mais je veux dire, quand t'as quelqu'un en face de toi et que t'es amoureux, je veux dire, il y a pas un centimètre carré de ton corps qui a pas envie de.
Ou sans l'être d'ailleurs, tu peux avoir une attirance sans être amoureux.
Tout ton corps.
Mais Wesley, vous avez 26 ans, donc vous êtes tout jeune, donc.
J'ai plus maintenant. C'était la dernière fois que j'avais appelé RMC, 26 ans. Aujourd'hui, je suis.
Il appelle tous les 26 ans.
Vous êtes à combien maintenant?
152.
J'arrive à 30 ans là.
Mais vous l'avez ressenti autour de vous quand vous aviez 26 ans que on s'éloignait du sexe quand même ou pas?
Eh ben un petit peu.
C'était vous qui vous éloignez des femmes ou les femmes qui s'éloignaient de vous? Parce que peut-être que c'était pas générationnel.
En fait, j'ai jamais eu de problème avec ça. Moi, j'ai toujours été très très dragueur. Avec pas trop, sans être lourd, bien sûr.
Est-ce qu'on peut être encore très dragueur?
Vous arriviez à conclure ou pas?
Oui, totalement.
Il va dire le contraire.
Wesley est honnête, notre auditeur.
Ils sont honnêtes au 32-16.
Merci à Nicolas et merci à Wesley d'avoir été dans les JG. Merci messieurs, bonne journée. À bientôt dans les grandes gueules. Merci d'avoir participé à notre discussion. Est-ce que ça vous inquiète ou pas?
100%.
Justement, qu'on se détourne du sexe. Oui à 64%, non 35%.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le meilleur des grandes gueules.
Culture de l'arrêt.
C'est un sujet de société important, à savoir que demain, on va avoir une clientèle qui va aller vers la malnutrition. Et puis une autre clientèle qui va aller pour le bien manger, mais à quel prix? Et nous, au milieu, les bistrots, les cafés, qui représentent aujourd'hui la majorité de la restauration traditionnelle, on est en train de disparaître. Alors, on essaye effectivement de répondre. Mais nous, pour faire la cuisine, on a des coûts, on a la pertinence du geste, on a des charges qui sont très supérieures. Demain, il va falloir bien comprendre qu'il y aura une restauration pour les gens avec des difficultés de pouvoir d'achat, et puis il y aura une autre restauration pour les gens aisés. C'est terrible, c'est un choix de société.
Donc vous les abandonnez.
J'avais entendu Alain Fontaine, le maître restaurateur. Il a un bistrot qui s'appelle le Mesturé à Paris. Il tient au fait maison, à la bonne bouffe, à la bonne chair, au bistrot. Mais est-ce que les bistrots ont encore un avenir?
Alain Fontaine, c'est un ami des GG, mais c'est vrai que le constat, il est quand même implacable. Aujourd'hui, les fast-foods représentent plus de 50% du marché de la restauration. Donc les fast-foods sont déjà en domination du marché. On va plus au fast-food que dans un restaurant traditionnel. Et c'est générationnel. Donc les nouvelles générations qui ont grandi avec les fast-food, est-ce qu'ils se mettront tout d'un coup à aller dans les bistrots plus tard? Ça me fait penser à tous ces jeunes qui ne regardent pas la télévision à 20 ans. Je les vois mal regarder la télévision à 40, mais peut-être. Hein. Donc effectivement, La Fontaine, il dit, on va arriver à un système où la majorité ira donc au fast-food, et puis ceux qui ont peut-être les moyens et un peu plus âgés, ben continueront à aller dans les restaurants, parce que un menu McDo à 5€, ben forcément un restaurateur traditionnel et même un bistrot de quartier ne peut pas rivaliser. Alors on peut bien sûr parier sur la qualité, sur les produits, etc. Mais ce n'est pas suffisant parce que les gens, contrairement à une idée reçue, les gens qui vont chez McDo, ils n'y vont pas simplement parce que c'est pas cher, mais parce qu'ils y vont, parce qu'ils sont contents d'y aller. Ils y vont en famille. Quand vous dites aux enfants, on va chez McDo, c'est bon. Les enfants, ils disent c'est génial, c'est super, etc. Mais je veux dire, il faut avoir on a beaucoup combattu la restauration rapide sur simplement l'histoire, c'est pas bon, mais la malbouffe, c'est un argument qui ne prend plus, en fait.
Didier, avant d'écouter
j'ai écouté en longueur, Monsieur Fontaine. Et je pense que tu peux aller plus loin dans ton argumentaire, Olivier. C'est que, y compris dans une partie de la restauration traditionnelle, c'est pas bon non plus, quoi.
Ah, en plus.
Et je pense que sauver des gens comme Alain Fontaine, moi je reste persuadé à l'étiquetage vrai, quoi. C'est qu'à un moment donné, il y ait des labels qui sont du fait maison. Alors ça existe, hein, ces labels-là. Mais qu'on fasse le tri entre des restaurateurs ou des bistrotiers qui font du fait maison et ceux que quand ils sont prêts à te servir l'assiette, t'écoutes le ding du micro-ondes, quoi. Et à un moment donné, il y a aussi à l'intérieur de la restauration traditionnelle du ménage à faire, parce que c'est le restaurateur, c'est le seul métier que tu peux exercer sans diplôme. N'importe qui peut ouvrir un resto. Dans tous les autres métiers, il faut un diplôme pour faire un métier. Et aujourd'hui, je pense que la profession a aussi besoin de faire son ménage entre des gens qui sont des restaurateurs, qui cuisinent, qui achètent des produits de base et qui cuisinent. Et c'est ça qui les différenciera à la fois, je dirais, de mauvais restaurateurs, hein, et à la fois de la restauration hors foyer, qui certes a rencontré son public, mais qui correspond à une demande qui est pas une demande universelle, quoi. C'est une demande de jeunes, c'est une demande quand tu passes vite, quand tu... Mais il y a encore une demande pour des gens qui cuisinent. Encore faudrait-il être sûr que c'est eux qui cuisinent.
On a Aurélien.
Et que c'est pas du coup décongelé.
Aurélien qui veut réagir. Je pense que c'est ça qui est. Voilà, justement, il est restaurateur. Bonjour Aurélien. Alors, Crousty, bistrot, qui va gagner?
Les bistrots. Il faut les faire vivre. Je vais juste répondre à Didier. J'ai pas un diplôme dans la restauration, j'ai un bac informatique, mais on fait très bien à manger.
Non, mais c'est pas incompatible.
Non, c'est pas le sujet, c'est pas le
mais
sujet.
C'est plus facile de faire n'importe quoi aussi, quoi.
Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de fast-food. Moi, je prends l'exemple. Nous, on est un petit village, on est à côté de Carcassonne. À Carcassonne, sur un rayon de 2 km, vous trouvez 3-4 fast-food à la ronde. C'est beaucoup, beaucoup trop.
Bah oui, mais et ça répond à une demande.
Ouais, ça répond à une demande. À un moment donné, ils vont tomber aussi parce qu'ils seront pas rentables. Hein.
Allez-y, Aurélien.
Mais aussi, nous, en tant que bistrotier et tout ça, on est là pour faire valoir le produit. On raconte une histoire. On prend pas les gens pour des cons. Et les gens viennent aussi pour ça aujourd'hui.
Et c'est du vrai fait maison?
Bien sûr, c'est du vrai fait maison. Bien sûr. Nous, on fait des cœurs de canard marinés façon tataki. On fait des nems maison. On fait des grillades avec de l'agneau qu'on trouve à 7 km, du cochon au doigt. On essaie de sourcer au mieux les produits locaux. Et ça, on le raconte quand les gens viennent manger au restaurant. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, quand ils vont au restaurant, ils ont envie qu'on les considère.
Qu'on leur raconte une histoire.
De la transparence, d'où viennent leurs produits, quel vin ils vont boire, d'où ça vient, comment c'est cuisiné. Moi, je vais faire entrer en cuisine pour leur montrer où c'est grillé. Les enfants, quand ils viennent chercher des glaces, ben, je leur fais faire à eux pour leur dire, voilà, le glacier de Lézignan, enfin voilà.
Et combien le menu chez vous? Combien le menu
nous,
chez
nous? Nous, midi, on est à 18,50. Ah, et pour répondre à une demande de...
Entrée plat dessert?
Facilité entrée plat dessert, tout à fait.
Ça va?
Bravo, hein.
Et pour répondre...
Mais il y en a plein des restos comme ça.
Mais il y en a plein des
trucs province.
Comme
ça. Il
faut... En province? Ah bah, faut sortir un peu de Paris.
Bah oui.
C'est
voilà.
Sûr.
Et nous, le
cinquième, ça fait plus cher que
on a liste déconnectée.
On fait de l'emporter avec des burgers maison, avec de la viande qui vient de notre boucher. Tout ça, on répond à une demande aussi d'emporter quand les gens n'ont pas envie de venir au restaurant parce que c'est trop cher. On leur fait de l'emporter et les gens sont contents. Moi, j'ai des collègues à moi qui allaient à Carcassonne chercher des tacos et tout ça. Ben maintenant, ils viennent prendre un burger chez moi.
Ah bah c'est bien.
Donc voilà.
Alors Aurélien, la parole à la spécialiste du fast-food du croustillé. Qu'est-ce que tu en dis, Joël, notamment en écoutant Aurélien?
Non, mais moi, je fais de tout. Je fais du fast-food comme je fais du bistrot classique. En fait, ce n'est pas les mêmes usages, c'est pas pour la même chose. Avec mes copines ou avec... on me vole mes trucs. Avec mes copines ou avec même des fois des déjeuners.
Elle a des fiches pour savoir quoi dire sur Testi Crousty.
Bah, je m'assois en bistrot. Mais on me vole.
Non mais regardez, c'est mignon. Regardez la feuille de préparation de Joël à l'émission.
Oh, j'en peux plus.
Elle t'a piqué une feuille de ta fille, non?
Oui, non, c'est mon cahier.
C'est ton cahier, ouais.
J'écris encore dans les cahiers.
Ça rappelle les
fontaines. En fait, disais, t'en as rien à foutre.
On s'en fiche.
C'est vrai. Attends,
non, qu'elle finisse quand même.
Non, mais
donc c'est pas les mêmes usages. Donc il y a des et des fois je passe au fast-food. Alors je fais pas de Testi Crousty et tout, mais les fast-food classiques, les à l'ancienne, du McDo, du KFC, du Popeyes, enfin voilà. Je passe là en rentrant et tout le monde est content. En fait, c'est pas du tout les mêmes usages. La différence, c'est que, par exemple, ma fille, c'est clair qu'elle va jamais s'asseoir en dehors d'être avec nous, avec les parents, dans un bistrot avec ses copines. Non,
elle va quand
mais
elle
c'est sort, là quel changement.
Elle sort avec ses copines. Ah oui. Oui, mais elle sort avec ses copines dans c'est des fast food. Par contre, là où je suis certaine qu'à un moment elle viendra au bistrot, c'est parce qu'en fait, nous on l'habitue avec nous.
On va dans des bistrots,
je pense que elle est déjà habituée à ça, mais c'est pas son truc naturel avec ses copines.
Non, mais il est vrai, moi je me souviens au lycée, on allait ça paraissait pas extravagant d'aller avec les copains du lycée dans des petits cafés pas chers où on prenait un plat unique, voilà, un truc qui coûtait pas plus cher que ce que coûte un McDo aujourd'hui. Et je me souviens très bien que ça paraissait pas extravagant. Alors qu'aujourd'hui, manifestement, pour les jeunes, l'idée de s'asseoir dans un bistrot, qu'un serveur vienne les voir, leur dire ce que vous voulez, etc., ça paraît.
À part les bouillons.
Les
bouillons, le phénomène des bouillons.
Ah ouais, les bouillons, c'est.
Refaire un petit peu la promo des bistrots, parce que c'est pas pareil, tu manges pas avec tes doigts.
Adrien Dubarin, vous avez qu'à la quarantaine, plutôt bistrot ou vous êtes passé fast-food alors?
Les deux en général, en fait. Voilà, je suis client, tout comme avec mes enfants, des fast-foods, mais je suis, étant donné que c'est mon activité, je suis hôtelier-restaurateur de métier, reconverti tout-bib pour hôtelier-restaurateur, alias consultant. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il faut que le législateur intervienne.
Il faut réguler les installations, c'est ça?
Je pense. Je vais faire écho à un de vos consultants et j'ai préféré, Stéphane Manigold. Moi, je suis de cette obédience-là. En fait, à un moment donné, que ce soit du pouvoir du maire, du pouvoir du préfet, il faut légiférer, il faut numerus clausus. Même si on est dans un pays où il y a la liberté d'entreprendre, je ne suis pas avocat, vous avez un avocat parmi vous.
Surtout le pays de la régulation, plus que la liberté d'entreprendre.
Exactement. Mais dans quelle mesure peut-on réguler? Et ça va se faire avec ce qui a été dit par l'une de vos juges il y a quelques instants, avec, et à l'autre extrémité, légiférer à l'entrée. On est le seul métier où on peut, où Jean-Michel à peu près peut ouvrir son.
Faites confiance au client. C'est le client qui est le roi. Si le resto est mauvais, il y va pas. La régulation, c'est le client qui va le faire.
Et merci surtout, Adrien, vous avez conclu la discussion. Adrien, il est plutôt pour réguler, qu'on fasse un numerus clausus dans les
normes.
Alors, bistrot, café, brasserie, ringardisé par les fast-food, est-ce que c'est. Vous mettez oui à 57%. Le best-of des GG, c'est terminé. Lundi prochain, les grandes gueules reviennent en direct.
Bien sûr, avec encore plus de GG, plus de débats, plus de directs, plus de liberté de parole.
Et plus de 32-16, on compte sur vous. À lundi, 9h, les grandes gueules en direct avec vous sur RMC, la radio, et RMC Story, la télé.
RMC, 9h, midi, le meilleur des grandes gueules.